pour lutter contre l'invasion russe depuis février 2022. Cependant, sur le chemin du retour vers sa Colombie natale, lui et un autre de ses camarades ont disparu après être arrivés à Caracas le 18 juillet dernier.
Cette histoire racontée par les médias rejoint celle de centaines d'autres, des centaines d'anciens soldats partis faire la guerre en Ukraine en échange d'un contrat. Car pour ces vétérans, il s'agit d'un travail. La plupart se battent du côté ukrainien, mais certains auraient aussi été engagés par l'armée russe. Sur les réseaux sociaux, des milliers de vidéos montrent leur quotidien sur le front. Felipe Murillo est originaire de Medellín. Il est en Ukraine depuis l'an dernier. Dans les vidéos publiées sur son compte TikTok, il prévient ses compatriotes qui souhaitent le rejoindre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tiens à envoyer un message très spécial à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches dans cette guerre stupide. C'est évidemment quelque chose de très douloureux pour tout le monde, mais malheureusement, la réalité, c'est que nous sommes tous venus ici avec le rêve d'assurer l'avenir de nos enfants, de nos familles, d'améliorer notre situation financière. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas un travail viable pour beaucoup de gens en Colombie. De nombreux agents de sécurité ou gardes du corps qui pensent que c'est un jeu ici, alors qu'en réalité, ce n'est pas un jeu. Ici, il suffit de 2 ou 3 minutes pour qu'il t'arrive quelque chose et pour mourir.
Vêtu de l'uniforme militaire avec un casque sur la tête et une cagoule de camouflage sur le nez, Felipe informe ses abonnés, près de 19 000 personnes. Cette vidéo a été postée quelques jours avant son retour à Medellín pour une permission. Aujourd'hui, Felipe rencontre un groupe de vétérans pour raconter son expérience. Habillé en tenue de civil, il porte un bonnet kaki avec le drapeau de l'Ukraine épinglé sur le front.
Je me suis enrôlé dans l'armée en 2011. J'ai servi 2 ans dans l'armée nationale et ensuite j'ai travaillé dans la sécurité privée. Et je ne peux pas exercer un poste ici parce qu'il n'y a pas de travail stable pour nous, les anciens militaires. Lorsque nous quittons l'armée, on devient inutile ici. Ce sont surtout les ex-combattants qui trouvent des emplois. Eux ont des postes publics comme garde du corps, mais nous, en tant qu'anciens militaires, nous devons nous faire une expérience en tant que garde du corps ou en sécurité privée avant. Alors j'ai économisé 8 millions de pesos colombiens, environ 1800 euros. Et avec ça, tu peux partir en Ukraine et subvenir à tes besoins là-bas. Car avant d'être engagé, tu dois payer pour ton hébergement, ta propre nourriture. Ils ne fournissent plus les repas. Quand je suis arrivé, on allait dans une caserne militaire où on avait 2 repas par jour, mais maintenant ils ont supprimé ça.
Felipe a tenu à changer de nom pour parler de son expérience. Il a été incité à s'engager à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et lorsqu'il est parti de Colombie, personne n'était au courant, pas même sa famille. Avec ses économies, il a donc organisé seul son voyage jusqu'à Kiev.
Le conflit est actif en permanence, donc ça permet aux compatriotes sur place de montrer une sorte de contenu marketing du combat, de faire sa promotion. Il parle des garanties du contrat, des bons salaires, de bons bataillons. Donc les réseaux sociaux, notamment TikTok, sont devenus un moyen de montrer la réalité là-bas, les salaires. Je me suis motivé en regardant des tas de vidéos et puis un de mes anciens supérieurs en sécurité était là-bas, dans la guerre. Et il me parlait des salaires et tout ça, ce qui m'a aussi motivé à y aller. J'ai donc pris la décision d'y aller seul, par mes propres moyens. J'ai cherché comment m'y rendre et je suis parti en Ukraine.
Investigar en quel pays devait arriver et ahí emigrar à Ukraine.
Llevando peluqueros, abogados, psicólogos, trabajadores sociales.
Felipe a 31 ans quand il arrive en Ukraine. Ce père de 3 enfants est motivé par la promesse d'un bon salaire, environ 4 500 euros par mois. À son arrivée, il fait d'abord 2 mois d'entraînement avant d'aller sur le terrain. L'armée ukrainienne vérifie qu'il est capable d'utiliser une arme, de lancer des grenades et d'armer des lance-missiles.
Eh
bien, en général, je déconseille de venir se battre sur le front ukrainien, car le conflit ici en Colombie est très différent de ce qu'on vit là-bas, dans cette guerre en Ukraine, surtout avec la Russie qui possède tant de technologies, des drones, des missiles qui te tombent dessus sans arrêt. Les gens sont tellement effrayés qu'ils désertent le terrain. Ici en Colombie, il n'y a pas d'armes aussi sophistiquées. La guérilla commence tout juste à introduire des drones dans sa lutte. En Ukraine, c'est tout ce qu'on a pour se battre. N'importe qui peut aller dans cette guerre, ils acceptent même les personnes jusqu'à 60 ans, ce qui est triste. Ici, beaucoup de vétérans viennent se battre, c'est des pros. Ce n'est pas la même chose pour une personne qui n'a jamais participé à des conflits militaires ou des policiers. Ces personnes sont entraînées rapidement avant d'aller sur le terrain, mais quand elles arrivent au combat, elles sont envahies par le stress et choisissent de reculer ou, dans certains cas, de se suicider.
Quizás por suicidarse.
À son retour en Colombie, il a dû rendre visite aux familles de ses compagnons d'armes tombés sur le champ de bataille.
Ils annonçaient 19 millions de pesos colombiens, environ 4 500 euros. Mais en réalité, quand tu arrives là-bas, tu ne touches que 2 470 euros à peu près pour l'entraînement. Et ensuite, lorsque tu entres dans la zone de combat, beaucoup perdent la vie et ne reçoivent pas cet argent. C'est une question de chance. Il y a des bataillons où ils payent et d'autres où ils ne payent pas. Dans mon cas, il fallait que je reste un mois sur le terrain pour gagner ces 19 millions. Je suis allé dans une mission et 27 de mes camarades ont été tués. Je n'ai passé que 5 jours sur le front, puis je me suis retiré car je ne suis pas venu pour perdre ma vie, je suis venu pour gagner de l'argent. Après l'assassinat de mes camarades, je suis allé dans un autre bataillon où on ne payait pas et ils mentaient sur le montant des salaires. Alors je me suis retiré, le temps de prendre des vacances.
Malgré tout, Felipe Murillo ne compte pas rester en Colombie. Il a déjà prévu de retourner en Ukraine et il veut rester sur le front jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque nous le rencontrons, il termine les derniers préparatifs et guide d'autres Colombiens sur TikTok pour se rendre en Ukraine. D'après Felipe, à ses côtés se battent des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Brésiliens et même des Taïwanais. Il est difficile d'obtenir le nombre exact de Colombiens engagés dans les conflits armés à l'étranger. Mais d'après le décompte de plusieurs médias colombiens, il serait environ 2000. Et comme Felipe, beaucoup ont utilisé TikTok pour s'informer. D'autres ont eu recours à des entreprises privées de sécurité. Parmi les plus célèbres, Blackwater, devenue Academy en Colombie, une des plus grosses compagnies mondiales. En 2009, lors de son installation à Bogota, elle avait embauché 7000 vétérans pour les envoyer à Dubaï. Laura Lizarazo, directrice associée du domaine de l'analyse globale des risques chez Control Risk.
Dans le cas des Colombiens, les forces armées de notre pays entraînent leurs effectifs depuis 60 ans pour combattre certains types d'ennemis dans des situations de guerre non conventionnelles et irrégulières. Les militaires colombiens ont justement perfectionné leurs compétences et leurs capacités au cours de plus de 6 décennies de conflits civils dans notre pays. Une fois leur service militaire terminé, après des carrières de 20 ou 25 ans, ils conservent ces compétences qui restent utiles et recherchées par ce type d'entreprise qui propose leurs services de sécurité à travers le monde pour faire face à des situations comme celles que vit actuellement le Soudan ou l'Ukraine.
Incluso en situaciones como las que está viviendo Sudán en este momento o incluso Ucrania.
L'an dernier, le gouvernement colombien a décidé d'agir. Il veut freiner les recrutements de ces entreprises et a préparé un projet de loi visant à rendre illégal le recours aux mercenaires colombiens. D'après Laura Lizarazo, la tâche sera difficile, car ces entreprises sont éparpillées dans le monde.
Apparemment, ces entreprises peuvent fonctionner en ayant une filiale locale dans le pays, mais associées à des sièges sociaux, situés surtout dans les pays du Golfe où il y a une forte demande pour des ex-militaires colombiens, surtout pour fournir des services de sécurité personnelle, comme garde du corps, ou faire partie de services de sécurité pour des individus dans les pays du Golfe. Et normalement, elles fonctionnent avec d'une structure hybride, disons. Il se peut même que ces entreprises situées à l'étranger aient des opérateurs locaux en Colombie qui s'occupent d'établir le contact avec les ex-militaires retraités. Elles font alors un genre de recrutement. C'est alors le premier contact local sur le terrain ici en Colombie.
Local en terreno acá en Colombia.
Pour la Colombie, l'enjeu est de taille, car trop souvent, des Colombiens se retrouvent impliqués dans des conflits politiques, comme lors de l'assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse, en juillet 2021. 26 Colombiens ont fait partie de cette attaque. Résultat, les tensions politiques entre les deux pays étaient si fortes que lors de sa visite en Haïti, le mois dernier, le président colombien, Gustavo Petro, a publiquement présenté ses excuses.
Peuple haïtien, je vous demande pardon parce que des Colombiens blancs sont venus ici pour tuer le président d'Haïti. Au nom de tout le peuple colombien, je vous dis que nous ne croyons pas à la mort propagée par ces Colombiens, nous croyons à la vie. La Colombie est le cœur de la vie dans le monde et nous nous accrochons à la vie avec la plus profonde sincérité et non comme des assassins. Merci beaucoup.
Gracias, muy amables.
Ce type de tension politique existe aussi avec d'autres pays où les mercenaires colombiens sont actifs. Selon l'expert en analyse des risques, Laura Lizarazo, cela entache la réputation de la Colombie et de son armée.
Il y a des situations très complexes qui soulèvent des questions très sérieuses et graves concernant les responsabilités du pays et gouvernement, au-delà des responsabilités individuelles de ces hommes partis au combat. Chaque fois qu'une histoire concernant des mercenaires colombiens apparaît à l'étranger ou dans la presse, la réputation du pays en prend un coup. Elle s'ajoute à la mauvaise réputation des forces armées au sein même du pays. Une réputation liée à d'autres problèmes, comme les exécutions extrajudiciaires commises par l'armée. Ces histoires de mercenaires empirent la mauvaise réputation des forces militaires colombiennes.
Pour tenter de dissuader les ex-militaires de partir, les associations de vétérans s'activent.
Vamos a empezar ya la próxima semana con el INE para crear la corporación de emprendedores veteranos y la corporación de músicos veteranos que van a estar en la Feria de Flores.
C'est samedi après-midi et Rubelio Murillo se trouve au siège du comité des vétérans de la région d'Antioquia avec un de ses collègues.
C'est triste, c'est une situation regrettable parce que malheureusement, je le répète, l'État colombien n'a pas mis en place de politique publique pour les vétérans qui soit réellement bénéfique. Une loi a été créée, mais cette loi est vague. Et quand le collègue dit qu'on peut gagner 19 millions alors qu'ici on ne gagne que 1 600 000, qui ne voudrait pas saisir cette opportunité. Et d'autant plus quand on a les connaissances et la formation militaire qui permettent de mener des opérations militaires dans d'autres pays.
Depuis l'an dernier, le comité des vétérans de la région d'Antioquia regroupe près de 22 000 ex-militaires. Plusieurs programmes de réinsertion professionnelle ont été mis en place pour les anciens soldats. L'idée étant de leur donner une bonne raison de rester en Colombie. Rubelio se réjouit du succès d'un d'entre eux.
Nous avons un très bon exemple à Envigado, dans la région d'Antioquia, où il y a actuellement un programme spécifique pour les vétérans âgés de 55 ans. 20 militaires qui allaient partir à l'étranger sont finalement restés à Medellín parce qu'on leur a donné un travail, l'opportunité de travailler dans la gestion de la sécurité. Peut-être que les entreprises privées de sécurité ne gèrent pas directement les questions liées à la sécurité des quartiers. Et c'est là qu'on fait appel à l'expérience, à l'expertise et aux connaissances des vétérans. Cela a été bien accueilli par le secrétariat de la sécurité, tant de Medellín que d'Envigado. Plusieurs ex-militaires ou des policiers vétérans ont été nommés secrétaires ou sous-secrétaires de ces services publics de sécurité.
Pour Rubelio, comme pour de nombreux compagnons vétérans, c'est le manque de considération du gouvernement envers ses soldats qui pousse au départ. Son collègue, Jairo Chavez, est du même avis. Ce retraité de la police nationale a porté l'uniforme des forces de l'ordre pendant 26 ans.
Il y a beaucoup de travail à faire. Nous espérons que le gouvernement fera preuve de bonne volonté. Mais malheureusement, ça reste souvent lettre morte. Parfois, ça existe seulement sur le papier. Et peu importe le nombre de lois qui existent, si l'administration n'a pas la volonté de mettre en place les lignes directrices et les projets, ça n'atteindra pas les territoires, les régions ni les villes. Et c'est ce que nous voulons, que l'administration, quelle qu'elle soit, montre sa volonté de concrétiser ses projets et qu'on puisse voir des résultats concrets. Se materializa y se da el beneficio.
En attendant le retour des vétérans en Colombie, des artistes comme Jenny Landazuri expriment leur soutien. Dans un de ses poèmes, elle relate l'importance des anciens combattants dans le cœur des Colombiens.
Para los veteranos de la Fuerza Armada, dice, veterano, veterana, tus ojos son el reflejo de tu alma.
Vétérans, vétérans, vos yeux sont le reflet de votre âme et en eux se voit la satisfaction du devoir accompli. Vous reflétez dans votre regard un peu tendre et fatigué, mais plein de motivation. Vous reflétez la satisfaction pour le chemin parcouru, cet amour, le dévouement et l'engagement. Vétérans, vous avez donné votre vie pour le devoir, pour le bien d'une société, pour lui donner sécurité et protection.
Para darle seguridad y protección.
Nadjed Menrabah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce reportage. Alors, nous l'avons bien compris, le recrutement de ces mercenaires colombiens se fait sous les radars. Alors, comment peut-on estimer leur nombre?
C'est vraiment très compliqué. C'était même, pour le dire, le plus difficile pour moi dans ce reportage. Clairement, la guerre est aussi celle des chiffres. Et le sujet des mercenaires est très délicat pour tous les gouvernements colombiens, ukrainiens, russes. Et puis, c'est très difficile de faire un recensement, car vous l'avez dit, hein, tout se fait sous le radar. La plupart des axes militaires en partent d'ici en Colombie, comme des touristes qui vont à Madrid. Aucun registre ou signalement n'est effectué. C'est la même chose sur place. On n'a pas d'informations du gouvernement ukrainien qui soient très claires. Et jusqu'à présent, les peu de chiffres dont on disposait, eh bien, c'est le gouvernement russe qui les donne directement au ministère colombien. Même si le lundi 24 février, eh bien, on a eu quelques chiffres du gouvernement. C'est en provenance de Pologne avec l'ambassade de Colombie qui donne le registre qu'elle a depuis maintenant 3 ans. Donc, elle aurait aidé 186 Colombiens, des Colombiens qui sont décédés sur le front, et on leur a demandé en fait soit une assistance pour un rapatriement, soit pour une validation de papier auprès du gouvernement ukrainien. Mais d'après même l'ambassade colombienne en Pologne, ça pourrait être bien plus important. Il y a énormément de disparus, il serait plus d'une centaine.
Les vétérans, donc tous ces vétérans, agissent bien loin des cadres légaux, on le comprend bien. Et pour vous, est-ce que ça a été facile de les trouver, puis de les faire témoigner?
Eh bien, bizarrement, c'est le plus facile finalement dans ce reportage. Eh bien, pourquoi? Parce que ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux pour parler de leur expérience. Et même encore plus facile à distance, ils parlent plus librement quand ils sont en Ukraine. Car quand ils viennent ici en Colombie, là, ça devient plus compliqué. Ils sont plus méfiants, plus réticents à se confier. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs de changer le nom de Felipe dans le reportage pour sa sécurité. Parce que lui, il s'inquiète par exemple de la loi que veut mettre en place le gouvernement colombien. Une loi qui voudrait rendre illégal le recours aux mercenaires colombiens. Donc, il faisait très attention à ce qu'il disait, mais aussi à ce qu'il publie sur son compte TikTok quand il est en Colombie.
Donc TikTok, vous le mentionnez régulièrement dans le reportage, semble être devenu un canal important pour le recrutement, entre autres. Quel rôle exactement joue ce réseau social et pourquoi d'ailleurs TikTok plus qu'un autre réseau?
Ça, c'est très difficile de le dire. Vraiment, on ne sait pas pourquoi TikTok est le réseau social numéro 1. Par contre, ce qui est sûr, c'est que TikTok et Instagram sont devenus des plateformes importantes pour la publication de campagnes, de même de publicité, on va dire, pour promouvoir et attirer des possibles étrangers sur le front ukrainien. On trouve des spots vraiment publicitaires qui ressemblent à des bandes-annonces de films. Elles sont de grande qualité. Et elles sont en plusieurs langues, notamment en espagnol, C'est aussi le cas de Felipe, c'est comme ça qu'il s'est enrôlé et il explique que en effet, c'est les bons salaires qui attirent, les conditions d'entraînement et le fait aussi que il y a d'autres soldats sur place qui publient régulièrement sur TikTok et qui montrent ce qui se passe. L'un des plus célèbres en Colombie, il s'appelle El Arab, l'Arabe. Alors c'est un Colombien, rien à voir avec le Moyen-Orient, c'est juste un surnom. Lui, il cumule déjà 70 000 abonnés. Il a été blessé lors d'une attaque et du coup, il a perdu une jambe et maintenant, il montre sa rééducation dans le centre médical ukrainien. Il continue aussi de donner des informations à d'autres Colombiens qui souhaitent rejoindre les rangs ukrainiens et il fait des vidéos pour avertir, par exemple, des arnaques liées au recrutement. Il donne son opinion sur les discussions politiques en cours. Il fait même des podcasts avec d'autres soldats pour parler de leur expérience. Il est devenu en quelque sorte finalement un influenceur de guerre.
Et l'un des vétérans à qui vous parlez, Felipe, qu'on entend régulièrement dans votre reportage, Najet, prévient des dangers de ce travail. Il le dit bien, c'est dangereux et on peut y perdre sa vie d'être mercenaire en Ukraine. Et pourtant, lui-même est sur le point d'y retourner. Comment est-ce que vous comprenez cette situation, Najet ?
C'est incompréhensible. Même lui ne parvenait pas à me l'expliquer. D'un côté, il me disait qu'il avait des séquelles psychologiques après tout ce qu'il avait vécu sur le front. De l'autre, il me rappelait l'impossibilité de trouver un bon travail en Colombie et donc il voulait retourner sur le terrain. J'ai longuement parlé avec lui et à chaque fois on revenait au point de départ. C'est la faute du gouvernement qui nous propose aucune alternative. On n'a pas d'autre option. Je veux retourner en Ukraine. Et d'ailleurs, il partira dans quelques jours. Et il est conscient des risques, c'est ça. Il me dit « Je viens de payer une assurance vie avec l'option rapatriement de mon corps parce que j'ai vu plusieurs collègues qui sont là-bas et du coup enterrés dans les fosses communes et moi je veux rentrer. »
La participation de tous ces mercenaires